Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Alors, où est le début dans un cercle? Donc, on peut prendre un point au hasard et puis on va bien retrouver quelque chose au début. Le thème, pourquoi pas à partir de ça? Comment se fait-il qu'ayant au cœur de l'esprit les qualités de l'éveil pleinement présentes, on n'en soit pas conscient? Et donc, qu'étant étranger à cette richesse, on vive la pauvreté, l'indigence de l'ignorance. Alors qu'au même temps, nous sommes fortunés. Rien que cette réflexion doit nous amener des larmes aux yeux en pensant à l'ensemble des êtres qui errent dans le cycle de l'existence, alors qu'il n'y a fondamentalement pas de raison pour ça. Que toute la souffrance qui est ressentie, vécue et qui semble infinie et comment dire, inéluctable, elle n'existe que du fait de l'ignorance qu'a l'esprit de lui-même. C'est terrible. Quand on pense à une souffrance, et on peut se dire, il y a un élément extérieur, et donc on peut essayer de cerner cet élément extérieur et se dire, bon, comment est-ce que l'on peut arrêter cela, etc. Quelque part, on peut dire c'est gérable. Mais quand on regarde la souffrance et qu'on voit qu'elle est en fait auto-générée, auto-subie, et qu'elle ne sera libérée que par soi-même, on voit ce dont je parlais hier, les cinq approches de la nature d'éveil, et en particulier ceux qui sont coupé de cette nature d'éveil. Et donc l'élan du cœur du Mahayana, il est naturel quand on a cette conscience. Que faire pour comment aider tous ces êtres? En même temps, comment nous aider nous-mêmes? Parce que bien sûr qu'on ne peut pas aider l'autre si on n'a pas gagné un peu d'indépendance, un peu de liberté, une sorte de progression collective vers davantage de liberté, davantage de reconnaissance de la réalité de notre esprit. Donc la source de la compassion, elle peut être là. Elle peut être bien sûr dans la vision directe d'une souffrance relative. Hein, les gens sont déplacés, ils ont faim, ils souffrent de la maladie, etc. Mais profondément, il y a un niveau beaucoup plus essentiel, c'est de voir que cette souffrance, elle naît de l'ignorance qu'a l'esprit à propos de lui-même et l'enchaînement de cette ignorance qui crée les causes et les conditions de la souffrance. Et là, on a une forme de compassion qui est celle du bodhisattva, qui est une compassion beaucoup plus essentielle. Hein? Et là, dans les questions, il y avait parlé de la générosité. Eh bien, la première réponse, ça va être la générosité. Et générosité, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ça veut dire donner. Mais je pense que ça commence par accueillir. C'est ouvrir. Alors, on peut dire ouvrir son portefeuille, mais aussi ouvrir ses bras, ouvrir son cœur, offrir le temps que l'on a pour aider une personne dans un moment particulier, un moment difficile, prendre le temps, donner le temps. Cette générosité-là, elle est vraiment importante parce qu'elle nous permet, en quelque sorte, de faire abstraction de l'obsession égocentrée qui nous conduit à toujours penser à notre sécurité, notre satisfaction. Et très souvent, on dépend d'autrui. Ce n'est pas une obsession qui est forcément, comment dire, maligne. On n'en veut pas aux autres, on n'a pas envie de les punir, mais on a quand même une forte priorité qui est donnée à nous-mêmes, et donc on s'est fermé, on s'est coupé. Et donc ça, c'est l'inverse de la générosité. Hein, la générosité, c'est inclure, et l'inverse, c'est exclure, pour mille raisons, hein, mais qui ont à voir fondamentalement avec ce désir obsessif d'être sécurisé, être satisfait. Donc la générosité, c'est ouvrir. Et de façon intéressante, dans son commentaire de l'entraînement de l'esprit en 7 points, Chögyam Trungpa Rinpoché fait un parallèle entre les 7 points de l'entraînement de l'esprit et les 6 paramitas. Alors le premier point, c'est une introduction. Et dès qu'on rentre dans le cœur du sujet, on va avoir 6 points en quelque sorte. Et il compare le premier point de l'entraînement de l'esprit, qui est l'entraînement de la bodhicitta ultime, c'est-à-dire en termes de Mahamudra, c'est reconnaître la nature de l'esprit et la nature des phénomènes. Il compare ça à la générosité. C'est-à-dire que reconnaître la nature de l'esprit, c'est la générosité. Pourquoi? Parce que lorsque l'on rencontre la nature de l'esprit, on a, comment dire, exposé l'obsession égocentrée et sa, comment dire, sa fausseté, le sens d'un ego séparé de l'autre. La structure dualiste, la structure sujet-objet, qui va en quelque sorte poser sa marque sur toutes les expériences. Hein? La conscience mentale, si on vient à l'étymologie du mot conscience mentale, Namparshepa en tibétain, ou Vijnana en sanskrit, le terme même porte la notion de dualité. Vijnana, Jnana c'est la conscience, Shepa c'est la conscience en tibétain, Nampar, divisé, c'est-à-dire affligé de cette habitude de la dualité, c'est-à-dire la conscience, ignorant sa réalité profonde, perçoit sa qualité connaissante comme étant un sujet. Perçoit sa qualité rayonnante de manifestation comme étant un objet. Et il y a un fossé qui se crée à chaque instance de conscience entre le sujet et l'objet. C'est ce que, lorsque l'on décrit l'ensemble des consciences, on appelle la septième conscience, la conscience affligée. Elle est affligée de la dualité. Et donc, parce qu'il y a le sentiment d'un soi distant ou différent de l'objet qu'il perçoit au travers des consciences sensorielles et de la conscience mentale, eh bien, il y a une forme de pollution. La réalité profonde, la nature profonde de l'esprit n'est plus vue parce qu'en surface, il y a une brume qui est la brume de la tendance, de la scission dualiste. Et il y a donc tout un univers d'action et de réaction qui vont s'installer entre ces deux polarités. Ces deux polarités sont totalement fictives et naissent de l'ignorance, de la méconnaissance de la situation. Mais, puisqu'elles sont appréhendées comme étant réelles, un petit peu comme l'expérience que l'on peut avoir lorsque l'on rêve, à l'intérieur du rêve, tout ça est très réel. C'est pas vrai, mais c'est réel. Puisque c'est perçu comme étant réel, eh bien, les causes et les conditions vont être vécus comme réels, les résultats, les retours vont être vécus comme réels. Et il y aura donc parfois de la satisfaction et parfois beaucoup de souffrance. La souffrance nous pousse vers un désir de satisfaction qui est assouvi ou pas, et donc ça crée à nouveau de la souffrance. La satisfaction assouvie du fait de l'impermanence, puisque tout ça est en mouvement, nous échappe, donc il y a de la souffrance. Donc dans le meilleur des cas, on a ce que l'on aspire, ce à quoi on aspire, on obtient ce que l'on désire, mais à un moment ou un autre, d'une façon ou d'une autre, on va le perdre, et donc même le plaisant devient déplaisant. Même le plaisir devient souffrance. Parce qu'il y a fondamentalement cette scission dualiste du fait de l'ignorance. Et donc, la générosité, ça va être une façon de reconnaître profondément, une façon de reconnaître la non-dualité de l'esprit au niveau très intime. Et puis, en termes relatifs, en termes de, on va dire, de surface, de relation à l'autre, de mettre en place un modus operandi qui ne sera plus basé sur l'envie d'attirer à soi le meilleur et de laisser le reste aux autres. De se débarrasser de ses déchets à l'extérieur et d'attirer tout ce qui est intéressant, sécurisant vers nous-mêmes. Donc, la générosité va s'exercer de façon relative en deux mouvements qui sont très bien définis par Atisha. Il dit d'abord pratiquer l'équilibre, ensuite pratiquer l'échange. Donc, d'abord pratiquer l'équilibre, ça veut dire prendre soin de l'autre et de soi-même avec un intérêt égal. Hein? On ne met pas l'accent sur sa sécurité, sa satisfaction uniquement, au détriment de celle d'autrui. On essaye d'avoir un regard équanime sur l'ensemble des êtres dont nous faisons partie. Ça, c'est pratiquer l'égalité. Et je pense que si l'on est vraiment, pragmatique et réaliste, ça peut déjà être un projet pour une vie. D'arriver à avoir un regard équanime et une action équanime, et donc qui n'est plus dans la rétention égocentrée ou la conquête égocentrée, mais qui est dans un réseau harmonieux de circulation de la positivité, de l'aide, de l'assistance, etc. etc. Et donc, ça se cultive par une intention, déjà, et ensuite, ça se traduit par une mise en action. Alors, l'intention, on le voit quand on récite les quatre immesurables. Puissent tous les êtres la félicité, les causes de la félicité obtenir, de la souffrance et des causes de la souffrance être libre, de la parfaite félicité libre de souffrance ne jamais être séparé, et dans la grande équanimité, libre de distinction duelle d'attachement et d'aversion demeurer. Donc ça peut devenir le mode d'emploi. Hein, ces quatre pensées qu'on appelle donc infinies, elles sont infinies parce qu'elles embrassent l'ensemble des êtres, parce que aussi elles sont la première marche vers le développement de l'esprit d'éveil et qui va donc conduire au plein éveil. Donc elles n'ont pas de limite en ce sens. Quand ces quatre vers, ces quelques lignes deviennent le cœur de notre vie. La générosité s'exprime naturellement. Et cette générosité qui s'exprime naturellement, elle a deux bienfaits. Elle a un bienfait pour l'autre, bien sûr, puisque c'est une générosité, c'est un mouvement d'affection, de tendresse, d'amour vers l'autre. mais aussi elle a un intérêt pour soi-même. Alors, l'intérêt pour soi-même, c'est que on s'aperçoit dans l'acte de générosité de notre réticence à être généreux. On peut parler d'avarice, mais c'est moi je préfère parler de rétention. On voit que il y a un moment, ça fait mal, ça coûte. Hein? Trungpa Rinpoché disait à ses disciples, quand vous faites un don, mettez la main dans votre poche et laissez votre main descendre. Est-ce que ça fait mal? Non, continuez. Ça fait mal un peu, mais ça va. Continuez. Ah ouais, là, ça fait vraiment mal. Bon, bah, serrez votre main, remontez et donnez-le. Quelque part, il doit y avoir ce petit pincement. Pas simplement parce qu'on doit se faire souffrir, non, ce n'est pas le but du jeu. Mais ce petit pincement, il est important parce qu'il nous montre, il expose notre réticence. Il expose la vision dualiste qui est tellement imprégnée dans notre esprit, dans notre corps, que on s'en rend même pas compte, on ne le voit plus. Il est totalement inconscient, mais actif. Et également, dans la générosité, si l'on est excessif dans sa générosité, on va pouvoir ressentir que notre générosité, en fait, n'est pas une générosité. Qu'elle est, en fait, c'est à l'inverse d'un don, c'est une prise. On prend à la personne qui est dans le besoin la conscience d'être généreux, le plaisir d'être généreux. C'est-à-dire que c'est cette personne dans le besoin qui nous donne à nous le sentiment d'être bien. Et donc on oscille entre les deux. Combien dois-je donner sans que ça me coûte trop et que ça fasse mal, pour avoir le sentiment d'avoir bien fait en retour. Et donc, en fait, quelque part, lorsque l'on donne à quelqu'un qui est dans le besoin, il faudrait pouvoir dire merci. Il faudrait pouvoir remercier cette personne de nous donner l'opportunité, un, d'être généreux, puisqu'on n'est pas généreux s'il n'y a pas une demande. Donc, il nous donne la possibilité d'être généreux et de plus nous donne la possibilité de voir les limites, la rétention, à quel point le cercle de nous a une emprise et arriver aux confins de ce cercle où finalement on va sortir et ça va être inquiétant. Donc, la générosité, c'est un enseignement sur ce qui, sur nos rétentions. Les rétentions nous renvoient à l'égocentrisme. L'égocentrisme nous forcément pose question, qui est inquiet? Et donc, on va regarder qu'est-ce que ce soit. Alors après, les enseignements du Bouddha, par exemple, avec ce qu'on appelle le placement des attentions sur quatre points différents pour essayer de trouver ce soi. Est-ce qu'il est dans la physicalité? Est-ce qu'il est dans le corps? Est-ce qu'il est dans les sensations? Est-ce qu'il est dans les phénomènes? Est-ce qu'il est dans l'esprit? On va rechercher de façon analytique, hein, ce soi qui est finalement comme une rumeur. On l'entend mais on ne le voit jamais. Moi, je compare ce sentiment d'un soi omniprésent à l'horizon. On le voit, mais personne n'a marché dessus. Plus on avance vers l'horizon, plus il recule. On n'arrive jamais. En quelque sorte, on pourrait dire l'horizon n'existe pas en soi de façon absolue. Il n'y a que des signes d'horizon. Et le soi n'existe pas en tant que tel, il y a des fonctionnalités, il y a des signes d'un soi. Donc, on ne peut pas dire qu'il est inexistant parce que ce serait quand même faire abstraction de ces signes, ce que moi j'appelle l'ego fonctionnel, hein. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il a une existence, parce que quand on le recherche, on ne le trouve pas. Quand on regarde, on voit sa manifestation, quand on le recherche, on ne le trouve pas. Et ça, c'est l'expérience méditative qui va nous permettre d'arriver à un moment d'intégration de ce paradoxe. Intellectuellement, on ne peut pas le faire, parce qu'on va être toujours dans l'extrême d'être ou de non-être. Hein? Il n'y a pas d'ego. Mais en même temps, je ressens bien quand même quelque chose. Je suis, ne serait-ce que je suis en chemin vers l'éveil. Donc on ne peut pas non plus totalement nullifier l'ego, mais on ne peut pas non plus le renforcer. C'est ce qu'en termes de Madhyamika, on appelle le discrédit et l'exagération. L'exagération, c'est de solidifier l'ego comme une entité. Le discrédit, c'est nier l'expérience même que l'on a. Et ces deux positions ne sont pas tenables. Si on regarde vraiment de près par l'observation, dans le silence méditatif, on va voir que ni l'une ni l'autre, ou bien toutes les combinaisons possibles de ces deux positions ne sont tenables. Et ce qu'intellectuellement on n'est pas dans la possibilité de faire, c'est-à-dire de résoudre ce paradoxe, eh bien, dans l'expérience méditative, on peut arriver à... J'ai du mal un peu à utiliser les verbes comprendre, réaliser, parce que c'est tellement... Vous voyez, à nouveau, le langage est totalement imprégné de la dualité. Alors, on va mettre des guillemets. On peut comprendre que le soi n'est pas d'existence propre et qu'en même temps, il est des fonctionnalités. Et que l'un n'exclut pas l'autre. Et que dans cette expérience, la base de saisie d'un soi, de l'individu comme étant existant, la saisie des phénomènes comme étant des entités avec une existence indépendante, qui est donc la base de toutes les afflictions mentales, la base de toutes les actions motivées par les afflictions mentales, et donc la base de toute la misère du monde, cette base est coupée à la racine. Il y a une libération essentielle qui se fait. Ça, c'est la générosité. C'est la générosité du lâcher prise de la saisie dualiste. Ça, c'est fondamentalement, profondément la générosité. Alors après, bien sûr, puisque dans la fonctionnalité du soi, il y a le soi relatif, l'autre relatif, réel mais pas vrai. Et il y aura aussi donc le choix de privilégier ce qui va être libérant, c'est-à-dire être généreux, en se défaisant de ce qui est aliénant, la rétention, comment dire, reluctance, comment on dit en français, je n'ai plus le mot,
La
réticence, voilà.
réticence.
Merci. C'est Google qui parle ou bien? La réticence. On va voir tout ça. Et on va lâcher les réticences. On va lâcher la rétention. Ça, c'est la générosité. Alors après, ça se traduit par des sous, ça se traduit par du temps qu'on donne aux autres pour les écouter et peut-être les soutenir un moment, peut-être leur donner un conseil si ça peut servir à quelque chose, partager le dharma quand on a la capacité de le faire, il y a l'espace pour le faire, il y a l'écoute et on a une certaine maîtrise du sujet. Toutes ces formes de générosité, bien sûr, se déployer. Mais à la base, vraiment, c'est qu'il y a, par l'expérience méditative, une reconnaissance de la nature fausse de leur allocution sujet-objet. et en particulier la fausseté de cette solidification du soi de l'individu comme étant quelque chose d'autonome, substantiel, indépendant, permanent. On commence à voir que, en fait, l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un pour apparaître. On ne peut pas avoir le sujet sans l'objet, on ne peut pas avoir l'objet sans le sujet. Les deux sont interdépendants. Donc, dans l'interdépendance, tout peut se manifester, tout est possible. Tout peut se manifester parce que cela s'élève de la base de l'esprit qui est vacuité. Vacuité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent un mot qui induit en erreur. Prenons un autre terme, dénué de, au lieu de vacuité. Dénué de. Le soi est vide. Il est dénué d'une substance, une permanence, une indépendance. La fonctionnalité du soi n'apparaît que dans la relation à l'objet. L'objet est vide, l'objet est dénué, ce n'est pas une entité, il est dénué d'une substance permanente, autonome, qui est dissocié du soi de l'individu qui le perçoit. Donc, c'est comme ça qu'il faut approcher le terme vacuité. Parce que vacuité, nous, on entend zéro souvent. C'est-à-dire, vacuité, ça veut dire c'est pas là. Ben, non, si je voulais dire c'est pas là, je dirais c'est pas là. Je n'irais pas utiliser le mot vacuité. Mais je comprends que ça peut induire en erreur. C'est pour ça que j'essaie d'utiliser d'autres termes. Par exemple, dénué de. Donc, lorsque dans l'expérience méditative, on s'aperçoit de cette double valeur, en quelque sorte, d'une absence d'entité substantielle permanente autonome, mais en même temps d'une présence, entre guillemets, fonctionnelle, dans le cadre de la relation entre le sujet et l'objet, dans un mode relatif, on peut tout à fait comprendre que, il y a une nécessité de transformation, toute relative. Dans ce mode relatif, on voit qu'il est nécessaire de cultiver la générosité pour prendre conscience de la réticence et de la rétention. On s'aperçoit qu'il est nécessaire de développer l'éthique pour, d'une part, ne pas nuire à autrui ni à soi-même, mais aussi pour comprendre que le mode d'être erratique est en fait gouverné par les désirs du soi qui veut être satisfait et protégé, toujours. Et donc, en fait, pour de mauvaises raisons. Ces raisons de la protection et de la sécurisation du soi, ou la satisfaction et la sécurisation du soi, n'ont pas de fondement. C'est un fondement imaginaire. Donc, on est dans un monde imaginaire qui attribue des noms à des expériences. Et en donnant un nom, crée une entité. Moi. C'est trois lettres, MOI. Mais quand on dit moi, on a exprimé toutes mes peurs, tous mes désirs, mon histoire, etc., etc. Donc, dans ce mot très simple, moi, eh bien, on a tout notre univers. Notre histoire, notre passé, notre futur, nos aspirations, etc. Tout ce qui est du domaine, on va dire, de l'affliction, le désir, la possessivité, l'exclusion, le rejet, la jalousie, la confusion mentale, etc., etc. Tout ça va être exprimé dans ça. Mais aussi, tout ce qui va être de l'ordre de l'aspiration supérieure. Le refuge dans le Bouddha comme but, le refuge dans le Dharma comme chemin, le refuge dans la Sangha comme support, compagnon, ami de vertu, ami de bien. les efforts que l'on fait, développement des six qualités transcendantes, générosité, éthique, patience, etc., etc. Tout ça est contenu aussi dans moi. C'est pour ça que nullifier le soi, en quelque sorte, va aussi bien attaquer l'aspect, on va dire, névrotique du soi, mais aussi ce qui va faire le chemin, ce qui va avancer. Et de plus, peut-être fondamentalement, cette négation est à nouveau une construction mentale. C'est qu'on a dit non et que ce non n'est qu'un. C'est un mot, un concept qui ne reflète en rien la réalité. Donc, le monde imaginaire, c'est mettre des mots sur les choses et par cette application dans l'esprit, dans la conscience mentale, solidifier une expérience, en faire une entité. C'est beau. C'est une étiquette qui peut changer. Ça n'existe pas d'ailleurs. Quand on dit c'est beau, qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous sert au petit déjeuner une souris morte, on va dire c'est affreux. Le chat en serait très content. Donc la souris, elle est ni belle ni appétissante en soi, ni répugnante en soi. Le mantra central dans cette compréhension de l'interdépendance, c'est ça dépend. Très souvent, les gens me posent des questions. Quel est le point de vue du bouddhisme à propos de cela? Ça dépend. Ça dépend de l'où on se place, ça dépend de l'observateur, ça dépend de la situation, ça dépend de l'ensemble des causes et des conditions. Et si je veux aller plus loin, je dirais ça dépend et ça n'est pas. Mais si je dis ça n'est pas, on va dire, ah oui, mais pourtant c'est bien là. Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire quand je disais ça n'est pas. Ça n'est pas ce que l'on pense. L'apparence n'est pas la réalité. La réalité n'exclut pas l'apparence. Et ça, c'est un paradoxe qui intellectuellement est insolvable. Mais dans l'expérience méditative, ce paradoxe n'est plus un paradoxe. Nagarjuna disait, si le relatif et l'absolu sont paradoxaux, ce n'est pas l'éveil. Si le relatif et l'absolu ne sont plus vécus comme paradoxaux, c'est l'éveil. C'est-à-dire qu'on a reconnu la nature de l'esprit. Donc, voilà, la générosité. Suis parti comme ça, au diable Vauvert. La générosité, profondément, c'est de reconnaître l'infondé de la dualité en s'établissant dans l'état naturel. Alors l'état naturel, c'est une façon d'appeler l'esprit et on va pouvoir l'appeler de nombreuses façons. Si on veut faire un espèce de schéma de l'esprit, il y a ce qu'on appelle le terrain fondamental. Alaya en sanskrit, le terrain, la base de tout. C'est-à-dire que dès cette base, l'esprit samsarique et l'esprit éveillé vont se révéler. C'est sur cette base-là que ça va se passer, c'est pas ailleurs. Ce terrain fondamental, du fait de l'ignorance, ne se reconnaît pas comme étant fondamental et commence à se penser de façon individuelle. Sur cette base-là, qui va être le réceptacle, le réservoir de toutes les actions, toutes les pensées, etc., ce que nous, on va peut-être appeler l'inconscient, eh bien, pourra s'élever l'activité de la conscience mentale. La conscience mentale, elle est en fait, elle, à la fois un projecteur et un récepteur. Elle projette un certain nombre de perceptions au travers des consciences mentales qui vont s'associer à un objet, enfin, une faculté sensorielle particulière et produire la perception d'un objet sensoriel correspondant. Ces informations vont revenir à la conscience mentale et la conscience mentale va les analyser et commencer à les organiser, les mettre en place, à donner une sorte de structure logique, à commencer à préparer des stratégies, etc. Et ça, on fait ça tout le temps et très rapidement, tout le temps, très rapidement. La conscience mentale, sur quelle base est-ce qu'elle fait ses choix? Les bases de l'inconscient. Donc l'inconscient gère en sous-main, sans être connu, la conscience mentale, qui elle pense être maître de ses choix, alors qu'elle est totalement influencée par l'inconscient, et qu'elle est affligée de ce que l'on appelle la septième conscience, c'est-à-dire la conscience affligée, c'est-à-dire affligée du tic dualiste. Chaque instant de la conscience mentale est vécu comme une relation d'un sujet à un objet. Donc là, on s'aperçoit qu'on a huit consciences. Cinq consciences sensorielles, hein, les consciences des sens, qui fonctionnent en lien avec la sixième conscience qui va être la conscience mentale, qui est affligée par la septième conscience qui est la dualité, et qui s'élève de la huitième conscience, qui est le terrain fondamental, qui est à la fois éveil et à la fois ignorance de l'éveil. Au niveau de ce terrain fondamental, les deux sont mélangés. Les textes nous disent, ils sont comme l'eau et le lait. Lorsque les deux sont mélangés, on ne sait plus dire ce qui est le lait et ce qui est l'eau. Et donc, la nature de Bouddha, qui est dans ce terrain fondamental, est voilée par l'ignorance et sera donc considérée ou vécue comme étant une individualisation à l'intérieur du terrain fondamental. Moi, je l'illustre, la terre, mon jardin. D'accord? Mon jardin, c'est la terre. Mais comme j'ai une barrière autour, c'est mon jardin. Parce que c'est mon jardin. C'est là où je plante mes graines, c'est là où se récoltent mes fruits. Et bien qu'on soit sur la terre, on est dans son jardin. Hein? Quand on est dans son jardin, on ne pense pas je suis sur la terre. Alors qu'on est sur la terre. On ignore la terre parce qu'on est dans son jardin. D'accord? Alors, la terre, le terrain fondamental, on va l'appeler Alaya, la base de tout. On va l'appeler Dharma Dhatu, la sphère ouverte et dynamique d'où s'élèvent tous les phénomènes, hein, la matrice de la manifestation. C'est un autre nom qu'on peut lui donner. On peut l'appeler Mahamudra. Dans le langage du Mahamudra, on peut l'appeler l'esprit ordinaire, c'est-à-dire l'esprit en lui-même. On peut l'appeler le en cela. Le comme ceci. En fait, on peut lui donner la perfection de sagesse, Prajnaparamita, on peut l'appeler Madhyamaka, on peut l'appeler grande perfection, Mahasandhi, on peut lui donner tous les noms et chacun, finalement, dans ses tentatives de montrer, de pointer du doigt la réalité sous-jacente qui est ignorée, a donné des noms. À suggérer des chemins d'approche qui sont tous à la fois valables et en même temps qui sont tous, comment dire, provisoires. Ils sont tous relatifs, puisque aucun des doigts qui montrent la lune ne sont la lune. Donc, ce terrain fondamental, c'est ce que dans la tradition du Mahamudra, on va appeler Mahamudra. Ou bien l'esprit ordinaire, la conscience ordinaire, Tamalkishepa en tibétain, cette conscience ordinaire qui est en fait extraordinaire. Mais elle est ordinaire parce qu'elle est commune dans le sens qu'elle est omniprésente, elle est le tissu d'où tous les plis vont s'élever. Elle est la base d'où s'élève l'éveil. Elle est la base d'où s'élève le samsara, l'existence conditionnée. C'est sur cette base même. Et dans une certaine approche de cette nature d'éveil, les enseignements du Bouddha ont été entendus. Hier, je décrivais ce qu'on appelle le véhicule des auditeurs, Shravakayana, le véhicule des auditeurs, ont été entendus comme le samsara doit être abandonné parce qu'il est source de souffrance et le nirvana doit être obtenu parce qu'il est source de libération. Et il y a une très forte dichotomie qui est accentuée dans cette lecture. C'est pas que le Bouddha a prononcé ces mots en ces manières très divisantes, mais elles ont été entendues comme telles par un certain nombre de gens et ont été propagées et partagées de cette façon, dans cette approche. En soi, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complet. Il n'est pas faux que le samsara doit être abandonné parce qu'il est source de souffrance. Il n'est pas faux que le nirvana doit être atteint, réalisé, accompli, parce qu'il est source de libération. Mais parce que profondément, les deux s'élèvent de la base, et qu'en soi, il n'existe qu'en mode relatif. Le samsara est samsara parce que le nirvana est nirvana. La souris est petite parce que l'éléphant est grand. La souris n'est pas petite, elle est petite par rapport à l'éléphant qui est plus grand que la souris. Mais la souris est grande par rapport à une puce. Et la puce est petite. Donc le nirvana est nirvana parce que le samsara est samsara. L'un fait l'autre. En mode relatif, ils existent, ils sont réels, mais ils ne sont pas vrais. Parce qu'ils sont simplement le jeu, la dynamique, le rayonnement, la créativité de cet esprit fondamental, ce terrain fondamental, qui est dénué de toute réalité substantielle, pérenne et individuelle. C'est l'essence de vacuité de l'esprit qui permet le jeu de sa créativité, qui va être conscience, qui va être compassion, qui va être félicité, etc. Mais toujours en association à son essence de vacuité. Le vide et la forme, pour reprendre les termes de la Prajnaparamita. Donc, tout peut se justifier dans ce mode relatif. Le chemin est justifié, la voie, les étapes, l'éveil est justifié. La souffrance est justifiée. Elle est réelle, mais elle n'est pas vraie. Quand vous perdez un petit peu le fil avec ça, revenez au rêve. Dans votre rêve, tout est réel, mais rien n'est vrai. À l'intérieur du rêve, vous avez des histoires. À l'intérieur du rêve, peut-être vous pouvez prendre conscience que vous rêvez et vous affranchir de l'influence qu'a l'esprit onirique sur lui-même. Donc, il ne convient pas de balayer comme ça du revers de la main le chemin en disant « mais si tout est vide, à quoi bon ?» Et donc, dans cette approche des auditeurs, le samsara est abandonné, le nirvana est être obtenu. Et donc, l'obstacle majeur dans cette perspective, c'est le désir et l'attachement au monde qui est aliénant. Et donc, dans cette démarche, l'idéal, c'est de prendre un des niveaux de vœux, d'engagement, avoir une éthique qui va nous permettre de nous affranchir de toutes les poussées possessives qui viennent du désir, d'affranchir et simplifier. Et ensuite, évidemment, méditer pour arriver à ce qu'on appelle la réalisation de l'absence d'identité du soi, l'état d'arahat. celui qui a ou celle qui a dépassé l'ennemi de la saisie du soi. Donc dans cette démarche-là, il y a une forme de substantialisation du chemin. Il y a comme quelque chose qui est encore là, une forme de réalité. C'est une démarche qui est fonctionnelle, qui est juste, mais qui n'est pas complète. Dans l'autre approche on appelle donc l'approche du Mahayana, il y a, du fait de l'introduction dans les enseignements du Bouddha de la notion de vacuité, de vérité relative, de vérité absolue, il y a comment dire, une prise de conscience plus profonde et plus large du fait que sur la base de cet esprit ordinaire s'élève le samsara et le nirvana. Et que donc, s'ils s'élèvent de cette base, ils participent de cette base et donc ils ne sont pas différents en essence. En essence, le samsara comme le nirvana sont vides et en même temps dynamiques. Donc ils partagent ça. Et donc il y a une indifférenciation du samsara et du nirvana dans cette conscience. D'accord? Donc, dans cette conscience, le samsara n'est pas une entité dont il faut se débarrasser et le nirvana n'est pas une entité qu'il faudrait obtenir. Ce qui convient de faire, c'est de réaliser la nature de ce terrain fondamental, puisque par cette réalisation, la prison de la dualité sera libérée. Et donc le samsara et le nirvana seront vraiment vus comme étant le revers et l'avers d'une même pièce. Et que s'il y a conscience, il y a nirvana. S'il y a inconscience, il y a samsara. C'est tout. C'est la seule différence qui existe. Alors cette vue, elle est très très importante. Et pourquoi je suis un peu comme ça technique, c'est pour vraiment bien comprendre que lorsque l'on pratique le Mahamudra, où l'on dit on regarde tous les phénomènes comme étant le jeu illusoire de l'esprit, regardant l'objet, on voit qu'il n'existe pas. Regardant l'observateur, celle qui ou celui qui appréhende l'objet, qui saisit l'objet, on voit qu'il n'existe pas. Mais en même temps, on voit le jeu. Et on s'installe dans cette conscience qui est au-delà du sujet et de l'objet. L'observateur et l'observé, le saisi et le saisissant sont libérés. Ils ne sont pas combattus comme étant des entités dont il faut se défaire et ne sont pas recherchés comme étant quelque chose à obtenir, parce que dans cette perspective, on reconnaît que le terrain fondamental, c'est la nature de Bouddha. Mahamudra, nature de Bouddha, sont des synonymes dans cette perspective. Quand je dis Mahamudra, il faut comprendre Mahamudra en tant que fruit, parce qu'il y a Mahamudra en tant que chemin et Mahamudra en tant que point de départ. Hein? Là, ça veut dire Mahamudra en tant que fruit. Et donc, cette incidence-là de la compréhension, de l'indissociabilité en essence du samsara et du nirvana va être cruciale dans la pratique du Mahamudra. On ne peut pas pratiquer le Mahamudra dans une vision qui considère que le samsara est à abandonner et le nirvana est à obtenir. Il y aura une sorte d'incompatibilité entre les méthodes de méditation et la vue que l'on tient. C'est pour ça que bien comprendre la vue est quand même importante. Dans la prière du Mahamudra, hein, que l'on a récité ce matin pendant notre méditation, c'est très clairement établi. Alors, comme toujours, quand je recherche le passage, je ne le trouve pas. Par exemple, page 5, par l'écoute et la compréhension des Écritures, donc ça c'est par l'étude, les voiles de la naissance, ou les voiles de la non-connaissance se libèrent. La non-connaissance, c'est ne pas comprendre intellectuellement ce que je viens d'expliquer. Hein, le fait que le samsara et le nirvana, en essence, ne sont pas, sont indissociables. Qu'ils se manifestent avec des saveurs différentes, mais qui tiennent beaucoup au fait de l'expérience qu'on a, l'esprit qui le regarde. Si l'esprit se connaît, c'est nirvana. Si l'esprit s'ignore, c'est samsara. Donc, étudiant cela, un peu de technique, un petit peu de philosophie, les voiles de la non-connaissance, le non-savoir, ce que je ne savais pas, ces voiles se libèrent. Par la réflexion sur les instructions orales, l'obscurité du doute est vaincue. Donc là, c'est la réflexion, la deuxième phase. La réflexion sur les instructions orales. Ici, les instructions orales, c'est ce que l'ami spirituel va mettre en avant pour faciliter notre compréhension. Donc, la première phase, c'est enseignement général, les acquis, les fondamentaux. Et ensuite, on entre dans une relation beaucoup plus personnelle avec un ami spirituel qui va nous aider à comprendre en utilisant notre langage. Et donc, donner des instructions orales, c'est des instructions qui sont appropriées à notre situation, à notre façon de comprendre les choses. Donc là, on rentre, enfin, en termes de couture, j'aime bien dire, le premier, c'est prêt-à-porter. Le deuxième, c'est couture. Hein? Donc ça, c'est du cousuma pour vous dans cette relation à l'ami spirituel. Et on voit que dans ce cadre-là, à ce moment-là, l'ami spirituel est vraiment, vraiment important. Parce que avoir un référent avec qui on peut débattre, l'obscurité du doute est vaincue. L'obscurité, qu'est-ce que l'obscurité? Ça veut dire ce qui interdit à l'esprit à se voir, qui interdit la reconnaissance de l'esprit en lui-même. C'est ça, cette obscurité. Et donc, elle est levée parce que le doute, c'est l'incertitude. Est-ce que cet enseignement est valable? Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai, etc. Si on reste simplement dans la première phase, on va écouter. Alors, soit on veut être une bonne élève et on va dire oui, c'est bien, ou on veut être un bon disciple du lama et le rendre heureux ou heureuse, donc on va faire, etc. Mais on est un peu un perroquet qui répète les paroles qu'il a entendues. Hein? J'avais le fils d'une très bonne amie à moi quand il était gamin. Il avait entendu une blague qu'il n'avait pas comprise. Mais quand il la racontait à des adultes, ils étaient morts de rire. Et alors, il racontait cette blague et tous les adultes étaient morts de rire parce que c'était une blague un peu salace. Mais le gamin, il ne comprenait pas. Il voyait juste le résultat, c'est que ça faisait rire. Et puis un jour, il me raconte sa blague et puis bon, je rigole. Puis il vient me voir et me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, attends un peu encore, vers 16-17 ans, tu vas comprendre. Ça prendra tout son sens. Mais là, c'est un peu tôt. Ça ne voudra pas dire grand-chose si je t'explique ce que ça veut dire. C'est un peu ça. L'étude, c'est les généralités. Et après, on a, comment dire, le commentaire qui est donné par l'ami spirituel de façon très particulière, qui nous permet d'assimiler la nourriture. Hein. Et donc là, il n'y a plus de doute, les choses deviennent limpides. Et ensuite, par la clarté qui de la méditation s'élève, l'état naturel, donc le terrain fondamental, Alaya, Mahamurda, nature de Bouddha, tel quel, c'est-à-dire s'illumine, c'est-à-dire qu'il s'illumine, c'est pas qu'il s'allume, c'est-à-dire que le voile est retiré. Donc la fiat lux, la lumière se fait parce que la séparation entre la lumière et les ténèbres, c'est fait par la réflexion. L'obscurité du doute a été dissipée. Et la lumière de ces trois excellentes connaissances puisse-t-elle s'épanouir. Hein, donc ça, c'est le chemin est illusoire, mais nécessaire. Il conduit à une réalisation de quelque chose qui était déjà notre trésor inné, mais dont on serait resté inconscient s'il n'y avait pas eu ce chemin. J'essaye de décrire ça en disant Le chemin, c'est entrer dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Entrer dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc pour rentrer, on va ouvrir une porte. Mais à chaque fois qu'on ouvre une porte, on va sortir. Et donc il faut comprendre que ce n'est pas en ouvrant des portes que l'on va sortir, ou plutôt ce n'est pas en ouvrant des portes que l'on va rentrer dans la pièce. C'est en prenant conscience que nous sommes déjà dans la pièce, que l'on entre dans la pièce. Mais pour entrer dans la pièce, il faudra en sortir. Le chemin, en quelque sorte, les méthodes provisoires, l'enseignement, sont ce que j'appelle, moi, avec tout le respect du monde, le mensonge didactique. C'est-à-dire, c'est une façon dévoyée de transformer l'ignorance pour amener à réaliser ce qui est. À terme, il n'y a rien à faire. Mais si on ne fait rien au début, on n'arrive jamais au terme. C'est pour ça qu'il est nécessaire de cultiver les qualités comme la générosité, l'éthique, la patience, etc., qui vont créer une dynamique qui va éclaircir tous les voiles de la réticence, les voiles de l'action, des actions erratiques, les voiles de l'impatience, etc., de l'instabilité. Et on va s'établir de plus en plus dans une stabilité et un éclaircissement qui va faire que l'état naturel tel quel s'illumine. C'est-à-dire que la lumière de l'état intérieur, tel qu'il est, est libre de rayonner parce que plus rien ne l'obstrue. Et ça, c'est le chemin. Alors, on peut voir qu'il y a effectivement deux façons d'approcher le chemin. Il y a la façon développer la positivité, accumuler du mérite, par là, ouvrir les possibilités de l'avènement du discernement et puis progressivement de voir s'épanouir la sagesse, c'est ce qu'on appelle une progression causale. On part du début et on avance sur un chemin logique qui nous amène à un résultat. C'est très palpable, on peut avoir des étapes qui sont bien marquées, c'est très aisé, facile à utiliser, c'est pour ça que c'est bien de commencer par là. Mais il ne faut pas ignorer non plus qu'il y a une autre approche qui est une approche, on va dire, l'approche depuis le fruit. Le fruit, c'est le terrain fondamental, la réalisation de ce terrain fondamental, de la nature de Bouddha, du Mahamudra, tout ça, c'est synonyme. Et donc, on va en fait procéder à un rétro-engineering. Hein, je m'excuse du franglais, mais on part du point de vue intellectuel que nous sommes tous dotés, nous participons de la nature d'éveil. Qu'est-ce qui fait que l'on est inconscient de cette réalité? Et on va donc, en quelque sorte, démonter ce qui fait obstacle pour arriver à ce que l'on sait être. Et l'approche du Mahamudra est dans cette approche-là. C'est que on voit les émotions perturbatrices, mais on les voit aussi comme un phénomène mental qui s'élève de l'esprit. Et que si l'on regarde cette émotion particulière, la colère, le désir, la jalousie, l'arrogance, etc., qu'on la regarde au-delà de l'histoire qu'elle nous raconte, au-delà de sa saveur, de sa séduction, si l'on n'est pas pris par la narration de l'état affligé, on peut voir l'esprit au travers et on peut revenir par cela au terrain fondamental. Et donc, dans l'esprit du Mahamudra, rien en soi n'est à rejeter, rien en soi n'est à adopter, à être adopté. Il n'y a pas une chose qui serait bonne et une chose qui sont mauvaises. Les deux on va dire, les états, par exemple, de l'esprit, de la méditation, où on expérimente la félicité, la vacuité, la cessation des concepts mentaux, etc., ne sont pas, ces expériences ne sont pas en soi supérieures aux états affligés du désir, de la colère, en soi. Bien sûr, ils ont des saveurs samsariques et nirvaniques. D'accord? Mais ça, c'est du relatif. En soi, ils ne sont pas, en essence, ils ne sont pas différents. Et donc, ce regard, donc cette progression qui part du fruit, elle nous reconduit en permanence à regarder l'esprit. Dans la tradition philosophique du Yogacara, c'est ce qu'on appelle retourner la base. Tenjur, complètement retourner la base. Flip the base en anglais. Flip, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, mais c'est comme une crêpe. Retourner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire retourner la base? Retourner la base actuelle, qui est le terrain fondamental. Le terrain fondamental où l'esprit est incapable de se reconnaître parce qu'il est constamment projeté vers l'extérieur dans le désir de saisir un objet qui apparaît satisfaisant ou de repousser un objet qui apparaît menaçant. Et donc, Gyanu Rinpoche nous disait toujours, vous regardez toujours dehors, regardez à l'intérieur, regardez à l'intérieur, vous regardez toujours dehors. On est fasciné par l'extérieur et on s'éloigne de l'intérieur. Retourner la base, c'est retourner le regard et l'objet que l'on perçoit, quel qu'il soit, ne pas perdre de temps à le qualifier de bon ou mauvais. Bien sûr, ne pas se laisser embarquer par l'histoire, ça c'est quand même le béaba hein, de base, mais ne se laisser prendre par l'histoire et de regarder au travers de ça l'esprit. Et donc, regardant l'objet, alors là on va reprendre à nouveau la prière du Mahamudra. J'espère que je vais trouver le passage. Hein? À la fin de la page quoi? 8, ouais. Voilà, à la fin de la page 8, merci. Bien. En contemplant l'objet, il n'y a pas d'objet. Mais on voit l'esprit. En contemplant l'esprit, il n'y a pas d'esprit. Son essence est vacuité. En contemplant cette dualité apparente, hein, la saisie duelle d'elle-même se libère. La claire lumière, c'est une métaphore. Hein. Faut pas penser, on allume la lumière, on éteint la lumière. Hein. Claire lumière, en fait, ça veut dire la conscience réflexive. C'est-à-dire que l'esprit se regarde. L'esprit se voit en lui-même. C'est une conscience qui est conscience d'elle-même. Hein. La claire lumière, nature de l'esprit. Hein. Nature de l'esprit, ça veut dire sa caractéristique. L'essence de l'esprit, c'est la vacuité. Donc, ce qui était dit avant, l'essence de l'esprit est vacuité, mais sa nature, c'est la claire lumière, c'est-à-dire cette qualité, cette capacité qu'a l'esprit à se connaître en lui-même, par lui-même, non pas comme un objet extérieur. D'accord? Donc, en contemplant l'objet, il n'y a pas d'objet, mais on voit l'esprit. Quand, dans l'expérience méditative, et ensuite, bien sûr, a fortiori, dans les expériences, quelles qu'elles soient, le tout venant de la vie sans faire de distinction, on voit bien qu'il n'y a pas quelque chose à privilégier, une sorte de combat entre le vice et la vertu. Ça ne s'applique pas dans ce regard-là. Ça s'applique dans le véhicule des auditeurs où l'on fait attention aux émotions, aux afflictions, parce qu'elles vont entraîner des actions, etc., etc. Mais ici, on les approche de façon complètement différente. Dans le véhicule des auditeurs, le feu brûle, tenons-nous à distance. Dans cette approche, le feu a une qualité chaleureuse qui permet l'éclairage, qui permet de faire cuire les aliments, etc. Apprenons à le domestiquer, apprenons à l'utiliser. Reconnaissons-le comme étant potentiellement dangereux, mais en même temps potentiellement utile. Donc, dans cette approche du Mahamudra, on contemple l'objet. C'est tout le but de la pratique de Vipassana, hein, de la vision pénétrante. On regarde l'objet et on voit que cet objet, il est dénué, vide, dénué de substance, mais qu'il apparaît dans très, très, comment, une apparence très réelle, très prenante, au travers des causes et des conditions. Et qu'il y a donc là quelque chose qui perçoit en apparence, quelque chose qui est perçu en apparence. On peut voir ça, on n'est pas donc dans un nihilisme qui rejette l'expérience. On peut voir ça, mais en même temps, notre regard passe au travers de l'histoire qui est racontée. Que ce soit moi et mes expériences vers l'éveil, ou moi et ma part d'ombre. On s'en fout des deux. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est derrière? Parce que l'objet nous ramène à l'esprit. De temps à autre, on va regarder l'esprit qui perçoit. Gyanen Rinpoché, dans ses instructions orales, nous disait, parfois, lorsque vous percevez un objet et que vous essayez de méditer de la sorte, la fascination de l'objet est encore très forte. Pour l'objet est encore très forte. Et donc vous vous trouvez au bout d'un moment embarqué par l'objet que vous regardiez parce que vous êtes dans l'incapacité de faire abstraction de l'histoire et de regarder le tissu dont est faite cette histoire. Si cela arrive, il faut retourner le regard et regarder l'esprit qui perçoit l'objet, l'esprit qui est fasciné par l'objet et de faire le même observation et de voir que cet esprit qui connaît sa nature, c'est la conscience, mais son essence, c'est la vacuité. Et donc là, ce qui apparaissait comme deux objets, ma main droite et ma main gauche, sont réalisés comme étant des membres de mon corps. Ça, c'est le terrain fondamental, mon corps. Ça, ce sont des extensions de mon corps, des membres. Et donc, on voit que l'objet qui est perçu et l'esprit qui le perçoit participe d'une essence commune qui est la vacuité. Leur apparition est possible par une nature commune qui est la créativité, qui est la conscience, etc., etc. Et donc, comme le dit ici le Karmapa, en contemplant l'objet, il n'y a pas d'objet, mais on voit l'esprit. En contemplant l'esprit qui perçoit, on voit qu'il n'y a pas, ce n'est pas une entité, ce n'est pas un observateur. Parce que son essence est vacuité, et en contemplant cette dualité apparente, eh bien, la saisie dualiste se libère. L'habitude de la septième conscience à tout fractionner entre un sujet et un objet différent est libérée. Et donc, la claire lumière qui est l'état naturel de l'esprit, réalisé. Et ça, c'est donc l'expérience du Mahamudra induite par la pratique de Vipassana. La pratique de Vipassana nous permet de progressivement nous libérer de la saisie dualiste. La pratique du Mahamudra est de nous installer dans cette conscience de la non-dualité. Et effectivement, à ce point, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, parce que tout ce qui s'élève, voyant l'objet, on voit l'esprit, voyant l'esprit qui perçoit, on voit qu'il n'y a pas d'esprit, et on comprend que les deux participent de la même réalité, qui est le terrain fondamental, le Dharmakaya, le mode d'être absolu, le Mahamudra, la nature de Bouddha, appelez ça comme vous voulez. Et simplement, il suffit de rester dans cette conscience tout au long de la journée, quoi qu'il advienne, que l'on marche, que l'on soit assis, que l'on dorme, que l'on soit éveillé, éveillé dans le sens l'inverse de dormir. Voilà, et donc il n'y a plus de différence entre sacré et profane. Il n'y a plus de différence entre je fais ma pratique et je ne fais pas ma pratique. Il y a un flot de conscience qui s'installe dans une immense détente. Et plus l'esprit se détend, moins il est prisonnier des ambitions. Obtenir l'éveil, me défaire du samsara. Et donc on est dans une immense détente, dans une immense conscience, et tout ce qui doit se défaire se défait, tout ce qui doit être transformé se transforme. Il n'y a pratiquement aucune manipulation à effectuer. Alors, évidemment, quand on présente les choses de ce point de vue-là, pour commencer, on court le risque de voir l'auditeur se dire « Ah bah oui, mais je prends ça, moi. Je ne prends pas le début, là, où il faut faire les prosternations, les préliminaires, où il faut accumuler le mérite, développer la sagesse, etc. Moi, je suis du Mahamudra. Hein? » Vous n'êtes pas les premiers à penser ça, puisque c'est arrivé même à Milarepa. Milarepa, après avoir eu son parcours magicien, tué la moitié de sa famille, et puis avoir pris conscience quand même que c'était quand même quelque chose d'extrêmement négatif, il va chercher, enfin, le maître chamaniste qui l'avait formé lui dit, bon, tu es une menace pour toi et pour moi, parce que pour toi, parce que tu fais des choses terribles. Quelque part, il disait, ce que je t'avais enseigné, je ne pensais pas que ça marchait à ce point, quoi. Hein? Et donc, tu es une menace pour moi parce que moi, je suis la cause de tout ça. Indirectement, je porte le même poids karmique que toi. Donc, va voir un enseignant et donc, il le dirige vers quelqu'un qui est proche, qui est un enseignant, un maître du Dzogchen, qui était la tradition première qui a été introduite au Tibet, et qui enseigne ça, finalement. C'est une autre façon de le présenter, mais la même chose. Si tu es conscient de la nature de ton esprit quand tu dors, tu es Bouddha en dormant. Si tu l'es en étant éveillé, tu es Bouddha en étant éveillé. Et du coup, Milarepa, il a dit « Ah, bah, c'est bien ce truc-là ». Donc, il dormait toute la journée, il ne faisait rien, etc., etc. Et à la fin, le maître lui dit « Ah, ça ne va pas, tu n'es pas encore prêt pour ça. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un pour toi, va voir Marpa ». Première chose que Marpa lui a dit quand il l'a rencontré, « Finis de labourer le champ ». Puis après, construit et détruit, etc. Et donc, il a aidé à élaguer tout le bois mort de son esprit pour ensuite pouvoir l'introduire directement à la nature de l'esprit. Donc, il faut avoir beaucoup d'admiration et de respect et de se dire que c'est dans cette direction que je vais. Je veux vraiment suivre la lignée de Milarepa, vraiment suivre la lignée des maîtres du Mahamudra. Mais je comprends aussi qu'il y a une certaine base préliminaire, parce que s'il n'y a rien à faire lorsqu'on est dans l'expérience de l'état naturel, si l'on ne fait rien, on n'arrive pas à cette expérience de l'état naturel. Parce que si c'était le cas, tout le monde ferait l'expérience de l'état naturel. Hein? Tilopa a dit... La graine de sésame contient l'huile, mais si on ne fait pas l'effort de la mouliner, de l'écraser, l'huile n'apparaît pas. Hein? Moi, je traduis ça en termes contemporains. Je dis, si au petit déjeuner, vous êtes assis devant votre bol de lait entier, en attendant que le beurre saute du lait pour aller s'installer sur la tartine, votre lait, il va cailler avant que vous ayez eu le beurre. Il faut sélectionner la crème, il faut barater, et ensuite on a le beurre. Donc, la vue du Mahamudra a des préliminaires. Les préliminaires sont appelés Chakchen Nundro. Nundro, c'est ce qui vient avant la méditation du grand saut, qui est préliminaire, qui favorise un état qui est naturel, mais une fois qu'on a suivi ce parcours et qu'on est arrivé grâce à l'expérience de Vipassana à ce que ici, le troisième Karmapa appelle l'expérience naturelle de l'esprit. Tant qu'on n'est pas arrivé à cette première expérience et qu'on a eu une sorte de, comment dire, on a percé le voile des ignorances. Il y a une percée qui a été faite, il y a un premier contact qui a été fait. Et donc, notre esprit sait dans quelle direction se placer. Il a entrevu ça. Ensuite, quand on a entrevu cela, eh ben, il suffit, il convient de s'installer et laisser cette expérience prendre toute sa place. Et elle prend toute sa place parce que tout ce qui l'obstrue est relâché et tombe, s'évanouit, se dissout ou s'établit en quelque sorte en l'esprit même. Parce que l'obstruction s'élève de l'esprit, la clarté, la lumière et la vacuité s'élèvent de l'esprit. Et toutes ces libérations se font de façon détendue et spontanée. Mais pour commencer, il y a un petit cheminement qui est nécessaire. Est-ce que vous avez quelques questions? Je vais peut-être m'arrêter là. Est-ce que vous avez quelques questions sur ce qu'on a vu là déjà ce matin? Ça s'adresse aussi à nos amis en ligne, hein? Tu te rappelles du moment? Tu n'es pas revenu encore? Bon.
Oui, je vais tenter la question, même si je sais que je peux être dans mes illusions, mais quand on a entrevu, on n'a pas réalisé, on a entrevu, est-ce qu'il y a un. On a entrevu il y a longtemps et on a vécu quelque chose de cet ordre. Et puis, voilà, tout s'est refermé à un moment donné pour une raison ou une autre. Et du coup, il y a la compréhension, en tout cas intellectuelle, et il y a un sentiment de cette absence de ce vécu. Et en fait, il y a comme une envie d'y retourner, mais un goût d'y reviens-y, comme on dit, mais impossibilité parce qu'on a déjà bougé, on est ailleurs. On est dans un autre temps, les réalités sont différentes, les potentialités sont différentes, etc. Et là, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on pratique? Voilà.
Voilà. Merci de cette question parce que c'est une question qui est partagée par beaucoup. L'aspect transitoire de l'expérience. Qu'est-ce que l'expérience? Je fais une différence en termes de, avec le vocabulaire, entre expérience et réalisation. L'expérience est quelque chose qui fluctue. Il y a même un traducteur, j'ai trouvé très intéressant, il utilise le mot humeur pour traduire ça. Les humeurs. Alors, on va avoir une expérience vraiment profonde que tous les phénomènes sont vacuité. Ça peut rester, s'installer une semaine, un mois, ça peut être un instant très profond. On peut avoir une expérience immense de félicité. Mais cette expérience, elle est transitoire parce que c'est un petit peu, si tu veux, à l'image d'un ciel couvert. Et puis, il y a une petite éclaircie, tu sais, avec ce rayon de lumière qui perce, que moi j'appelle le doigt de Dieu, tu vois, qui passe au travers des nuages et qui éclaire un petit spot, un petit point sur la terre, comme ça, pour un instant très bref, et puis ça se referme. D'accord? Ça, c'est l'expérience. Alors, idéalement, l'expérience, elle nous apporte la confiance. C'est que malgré le ciel couvert, la pluie et le froid que je ressens, il y a un ciel bleu et il y a de la luminosité parce que je l'ai entrevu. Idéalement, ça apporte cette confiance. Et ce qui fait qu'on va pouvoir continuer à mettre en œuvre toutes les instructions qu'on a reçues pour dissiper les voiles. Parce qu'il y a la confiance. On sait, on sait intimement qu'il y a quelque chose au-delà des nuages. D'accord ? Donc ça, idéalement, c'est ce qui se passe. Maintenant, un peu moins idéalement, c'est que cette expérience qui est transitoire, qui est donc extraordinaire, enfin, ça, c'est quelque chose qui presque nous semble comme étant l'éveil, hein, dans son intensité, et parfois ça dure un certain temps. Lorsque les nuages se reforment et que l'expérience n'est plus viable du fait du changement des causes et des conditions qui l'ont favorisé, qui ont favorisé son avènement, eh bien, il y a un sentiment de nostalgie et de perte qui naît immédiatement après avoir saisi l'expérience comme étant plaisante et étant mienne. Donc, le conseil que l'on reçoit à chaque fois lorsqu'on va faire un rapport de l'expérience méditative que l'on a à son ami spirituel, qui est une bonne chose, hein, c'est bien de un petit peu comme ça d'informer pour que l'ami spirituel voit un peu où on en est. Le conseil, c'est ni bien ni mal, continue. Ni bien ni mal, ça veut dire ne fais pas un instantané que tu vas coller sur ton mur. Mmh. Tu vois, et que tu vas comment dire, te remémorer avec nostalgie. Et en fait, c'est une photo. C'est une représentation, ce n'est qu'une représentation conceptuelle de ce moment qui n'existe plus. C'est un ersatz, c'est pas la réalité. C'est pas l'expérience. La mémoire qu'on en a, c'est pas l'expérience. C'est plus l'expérience. Et alors, le problème qui vient rapidement à la suite, c'est que puisqu'il y a nostalgie, on s'efforce de retrouver. Et on essaye de retrouver ce qui était. C'est comme regarder une photo de nos 20 ans et aller s'inscrire à une clinique de chirurgie esthétique pour se faire retailler, pour ressembler à ce qu'on était à 20 ans. C'est la même chose. C'est passé. Même les 20 ans, ça n'a jamais existé. Quand est-ce qu'on a eu 20 ans ? C'est un flot. Donc ça, c'est le problème. C'est le problème, c'est qu'on a, réifié l'expérience. On en a fait un artefact, un objet artificiel, qui est une représentation conceptuelle, et que l'on a saisi comme étant ce que je dois retrouver pour atteindre l'éveil. Et ce faisant, on se coupe du processus qui va conduire à la réalisation de la nature de l'esprit parce que l'on est fasciné par une image. On est fasciné par une image, on est en souffrance de la perte de cette image, enfin de cette expérience, et on a une sorte de, on a un mausolée de nos expériences avec toutes ces photos collées sur notre mur et on pleure devant en se disant si je pouvais retourner là-bas. Et tout ça interdit le déroulement naturel du chemin qui nous conduit à la réalisation de l'état naturel. Donc, les expériences ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles peuvent devenir un objet de fixation et donc d'errance. Et il convient de les voir venir et les voir disparaître sans s'y attacher. Parce que quand tu me dis « on en est où ?», là je dis « tu es dans le musée de tes expériences qui est arrosé des larmes de la nostalgie. Sors du musée, vis la vie, reprends le fil de ton observation. Ce qui importe, c'est ce qui se passe maintenant. Parce que ce qui se passe maintenant, regardant l'objet, il n'y a pas d'objet, on voit l'esprit. Et regardant l'objet, quel qu'il soit, regardant l'expérience qui s'élève, ou les nuages les plus épais avec la grêle et la pluie, etc., Regardant ce nuage, il n'y a pas de nuage, on voit l'esprit. Passant au travers de la narration, passant au travers du vernis d'apparence, toujours regarder l'esprit. Et c'est ça le retourner la base. Retourner la base qui est toujours l'habitude de vouloir saisir l'objet. En retournant la base, en regardant l'esprit, au travers de l'objet, au travers de l'esprit qui perçoit. Et de retrouver l'esprit. Et donc, peu importe, expérience ou pas, peu importe. C'est pas l'histoire qui importe. C'est le papier sur lequel il est écrit. C'est ça qui importe. Donc, quel est le radeau auquel on s'attache dans ce moment-là? Le radeau, c'est celui de la pratique. Alors, quelle que soit la forme que ta pratique, la forme que tu as adoptée ou tu as donnée en ce moment à la pratique, parce qu'elle peut changer, elle va changer avec le temps, toujours revenir à ça. Don't panic, practice. Paniquez pas, regardez l'esprit. Regardez l'esprit, regardez l'esprit, regardez l'esprit, regardez l'esprit. Sans attente, sans espoir. L'attente, l'espoir, arrive avec leurs jumeaux qui sont le désespoir. Espoir et désespoir, c'est le même nom de famille. Hein? Donc, simplement être régulièrement, avoir une routine. On se lève le matin, on s'assoit. Dans la journée, on s'assoit. Alors qu'on travaille, on regarde l'esprit, on regarde l'objet. L'objet nous ramène à l'esprit. L'esprit nous amène à son essence. Regardez l'esprit qui connaît, etc., etc. C'est la pratique de Vipassana, la pratique de la vision pénétrante. Pour pouvoir le faire, il faut bien sûr avoir une base de stabilité mentale. Donc, il faut cultiver Shinné, hein, calme mental, Shamatha, pour avoir la stabilité mentale qui permet l'observation. Si l'esprit est fasciné par l'objet, il ne peut pas le regarder. Si vous mettez un billet de 100 € devant vous pour méditer, comme support de méditation, est-ce que vous allez voir que c'est l'encre et du papier, ou est-ce que vous allez penser tout ce que vous pouvez acheter avec les 100 €? C'est ça l'idée. C'est rien, c'est du papier. Ça a une apparence, parce que dans notre contexte, dans notre système de causes et de conditions, ça représente quelque chose, c'est insignifiant. Mais c'est insignifiant, UN signifiant, et insignifiant, IN signifiant. C'est insignifiant et insignifiant, insignifiant. Si tu es perdu au milieu du désert, tu peux sortir une liasse de billets, c'est pas ça qui va te faire de l'eau. Dans ce cadre-là, ça ne sert à rien. Donc, d'être capable de regarder tout ça, sans espoir et sans crainte, nous permet d'être dans l'instant. C'est ça le radeau sur l'océan du samsara, c'est le dharma. C'est notre pratique. Et ici, dans le cadre de ce que l'on voit, c'est de regarder l'esprit. Voir l'esprit, comprendre l'esprit, réaliser l'esprit et transcender le méditant et la méditation progressivement. Donc voilà. Voilà. Merci. Où on est, et voilà ce qu'il y a à faire.
Merci beaucoup.
Selon mon humble opinion. Ça n'engage que moi et ça vous engagera vous si ça vous engage.
Je peux poser une question là-bas?
Bien sûr, bien sûr.
Quand tu as dit à terme, il n'y a rien à faire. Donc, c'est essentiellement ne pas juger, ne pas analyser, ne pas interpréter, ne pas saisir, ne pas rejeter, ne pas adopter. Est-ce que c'est ça, grosso modo?
C'est beaucoup de faire déjà tout ça. C'est des faire qui commencent par ne, mais c'est à faire. Donc, c'est toujours du faire. C'est aller même au-delà de ça. Aller au-delà de l'affirmation et de la négation de l'affirmation. L'état du Mahamudra, en fait, il ne peut pas être décrit par des mots. C'est-à-dire que la rencontre qu'a l'esprit avec lui-même, elle est tellement intime qu'elle devient ineffable et inconcevable. Et donc, on ne peut pas en dire grand-chose. Enfin, je pense que même on ne peut rien en dire de cette expérience, si ce n'est que c'est inconcevable et ineffable. Pour quand même montrer que ça existe, sinon, ben, si on ne peut rien en dire, de quoi parle-t-on? Hein, on a besoin de s'entendre et de se dire, bah, y a quelque chose au bout du chemin et de l'effort, il y a quelque chose. Bah, si ça t'aide à marcher, d'accord. Mais pour l'instant, ce qu'il y a à faire, c'est le calme mental qui permet à l'esprit de se regarder, hein, assis ou en action. Une fois que ce calme mental est bien établi, commencer l'exercice de la vision pénétrante. Alors, je vous renvoie au texte de Shama Rinpoche au cœur de la sagesse, où il explique les différentes étapes de la vision pénétrante commune, celle qui est pratiquée dans tous les enseignements donnés par le Bouddha dans toutes les traditions. Et puis, cette approche spécifique du Mahamudra, le Vipassana dans cette approche spécifique du Mahamudra. Et c'est également ce qui est résumé par ce vers du troisième karmapa. Regardant l'objet, il n'y a pas d'objet, on voit l'esprit. Regardant l'esprit, il n'y a pas d'esprit, on voit sa vacuité. Regardant ce qui apparaît être une sorte de relation entre l'observeur et l'observé, eh bien, on voit que la dualité, la polarité, en fait, n'a pas de fondement et elle est libérée dans ce regard. Donc ça, c'est le travail de Vipassana, qui nous conduit à être dans ce moment où le sujet et l'objet ne sont plus paradoxaux, ils ne sont ni niés dans leur manifestation relative, ni affirmés comme ayant une existence absolue et définitive. Mais par contre, l'expérience que l'on fait à ce moment-là, qui est l'entrée dans ce qui va être le Mahamudra, hein, le début du Mahamudra en tant que fruit, on ne peut rien en dire. On ne peut rien en dire. C'est quelque chose d'intime qui est, comment dit-on, qui est du domaine de la sagesse intime et qui n'est pas communicable. Donc, on ne peut même pas dire que dans ce moment-là, dans cette expérience-là, on soit dans le non-jugement, le non-rejet, etc., etc. Ça, c'est avant. Dans l'exercice de Vipassana, on va voir que l'étiquetage, bien, mauvais, etc., ça n'a pas de fondement, on va relâcher, etc. Je dirais, ça se passerait plutôt dans l'exercice de Vipassana qui est... Shama Rinpoche fait la différence entre l'entraînement et la pratique, aussi bien dans Shiné que dans Vipassana. Dans Shiné, dans Shamatha, le calme mental, il dit qu'il y a l'entraînement qui est utiliser un support, le souffle, un objet, etc. Ensuite, ne pas utiliser de support, laisser l'esprit poser en lui-même, voir les mouvements s'élever et disparaître, etc. Tout ça, c'est l'exercice. Et puis, dans cet exercice, vont s'élever les trois expériences, Desal Mitokpa, une expérience de félicité, une expérience de conscience réflexive, l'esprit va se voir, et une expérience de la cessation de tous les processus discursifs, les jugements, les analyses, les étiquetages, etc. Quand cette expérience s'élève, ça c'est la pratique de Shiné. Avant, c'est de la préparation. Avant, c'est l'échauffement. Et c'est quand on est dans cette expérience. Donc, on reste dans cette expérience, hein, qui a dépassé l'entraînement. Hein. On est vraiment dans l'expérience. Ça, c'est la pratique. Et on pratique jusqu'à ce que cette expérience devienne un mode d'être, devienne une réalité stable, quelles que soient les situations. Le calme mental est établi. Et là, dans ce calme mental, dans cette vraiment expérience qui est limpide, claire, ouverte, sans voile, etc., Eh bien, quand s'élève un phénomène, on le regarde. Et on voit qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de substance, ce n'est pas une entité. On voit l'esprit. Et quand on regarde l'esprit, on voit qu'il n'y a pas d'esprit. On voit qu'il y a une conscience, mais ce n'est pas une entité. Et donc, on voit que les deux, la relation de l'un à l'autre, est perçue comme étant simplement le mouvement d'un esprit vide. Et donc, il n'y a pas cette distance que l'on pense entre le sujet et l'objet. Et là, la conscience dualiste s'évanouit dans l'expérience. Ça, c'était la pratique de Vipassana. L'entraînement de Vipassana, l'échauffement. Quand on arrive dans l'expérience de la non-dualité, c'est la pratique de Vipassana. Et la pratique de Vipassana, c'est simplement de s'installer. C'est pas la faire, c'est s'installer dans cette expérience. Si on voit revenir ce qui crée une distance, à nouveau, on regarde l'objet, on regarde l'esprit, ça se détend. On reste à nouveau dans cette conscience, actif, assis, éveillé, endormi. Il y a un fil, un flot. Et ça, en quelque sorte, c'est là où le Vipassana devient Mahamudra. Bon, c'est un changement de terme, mais en gros, c'est la même chose. Et c'est là où on aura besoin de toutes les explications pour stabiliser l'expérience, pour étendre l'expérience, pour éviter les pièges, etc., qui seront les instructions données par le maître de Mahamudra à ce moment-là. Et, mais à nouveau, tout ça, c'est dans le texte de Shama Rinpoche, au cœur de la sagesse, très clairement mis en place. Après, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. Bien, merci, je crois qu'on va... Bienvenue Arnaud. On va dédier le mérite pour ce matin. Par cette vertu, le grand saut promptement réalisé, tous les êtres sans exception en cet état, puissions-nous les établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus, des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ceux qui errent, puissions-nous délivrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve, en tout cas, pour nos amis du cyberespace, ce soir à 20h pour continuer notre discussion.
Merci. Merci. À ce soir.
À ce soir.
Merci. À ce soir. Merci.
À ce soir.
Au revoir.
Merci, Emma.
Au revoir. Merci.
Au revoir. Marie-France.